Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler d'environnement pendant la prochaine heure. En deuxième heure d'émission, il sera question d'immobilier avec des spécialistes. Puis j'en profiterai pour vous poser la question. Si vous êtes propriétaire, est-ce que vous connaissez la véritable valeur de votre propriété? On va vous donner des trucs également. Et en terminant l'émission vers 11h30, on recevra le chanteur Inou, Florent Volant. Environnement, effectivement, on en a discuté ici pendant la campagne électorale. On se plaignait un peu avec mes invités que l'environnement, même si c'était une volonté visible des citoyens, de vous, parce que vous m'écriviez beaucoup là-dessus en me disant comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus. Effectivement, ça a été un peu le constat qu'on en a fait au cours des dernières semaines pendant cette campagne. Malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup parlé de grand-chose, mais en tout cas, on n'a vraiment pas beaucoup parlé d'environnement. C'est malheureux parce que, je vous le rappelais d'ailleurs, c'est parmi les plus grandes préoccupations que vous avez. Évidemment, il y a la santé, il y a l'éducation, mais en troisième lieu, arrive rapidement l'environnement. L'environnement, c'est large, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est la terre avec laquelle on se nourrit. Je vous rappelle qu'au Québec, on a malheureusement, il nous reste malheureusement qu'à peine 4% de terres arables. Et vous voyez à quel point, quand il s'agit d'agriculture, on parle beaucoup de la gestion de l'offre en ce moment avec le feu, l'ALENA. Et le nouveau mais bref, on se rend compte à quel point nos agriculteurs sont une force évidente, une valeur ajoutée qu'il faut protéger. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que, visiblement, il y a du monde, vous allez me dire, ouais, mais il y a juste 37 % des gens qui ont voté pour la CAQ. Peut-être, c'est le gouvernement majoritaire. Ça veut dire qu'il y a quand même assez de gens qui ont voté pour eux pour qu'ils deviennent le gouvernement. Alors, est-ce que c'est parce que l'environnement, c'est pas ce qui a été... La prime à l'urne, ça n'a pas été là-dessus, visiblement. Est-ce qu'on est vert jusqu'à temps qu'on ait à nous demander notre avis là-dessus? Puis, il ne faudrait pas que ça dérange trop mes petites habitudes. Est-ce que c'est ça, votre position? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. En attendant, je vous présente mes invités. Dominique Champagne est avec nous. Il est auteur, metteur en scène, réalisateur du documentaire Anticosti, la chasse au pétrole extrême. Bonjour, Dominique. Dominique, est-il là?
Oui, je suis là.
OK, bonjour.
Salut, bonjour.
On voulait avoir Dominique Champagne avec nous parce que comme il va être question d'Anticosti à nouveau, c'est apparemment dans certaines questions qu'on a posées au gouvernement, au futur gouvernement, au parti pendant la campagne, la CAQ là-dessus semblait prête à repartir le dossier d'Anticosti, fait que je voulais t'entendre là-dessus. Jean-Sébastien Trudel est conférencier, il a écrit le livre il y a quelques années, « Au secours, la planète se meurt, mon boss s'en fout », merci d'être là.
Bonjour.
Patrick Bonin est porte-parole de Greenpeace. Merci, Patrick, d'être là.
Bonjour.
Sydney Ribault est cofondateur et directeur général d'Équiterre. Merci, Sydney. Vous voyez qu'on a un
Bonjour.
Beau panel. Je commence avec Dominique Champagne parce que, bon, on l'a vu pendant la campagne électorale, il y a tout un groupe d'environnementalistes qui ont demandé, Dominique, aux principaux partis, quelles étaient leurs priorités. Ils leur ont demandé, en fait, voici 23 priorités environnementales. Pouvez-vous vous positionner là-dessus? Sur la question d'Anticosti, c'était comme une des premières questions. On reparlait d'infrastructures. Une des questions, entre autres, c'était est-ce que vous seriez en faveur pour qu'on arrête, pour qu'on ne reparte pas toute la notion de tout ce qui s'est passé.
Ouais, le développement pétrolier.
Merci beaucoup. Et là-dessus, on a été un peu déçus de la réponse, Dominique Champagne.
Oui, on est déçus. C'est sûr qu'on est déçus de voir que, avec l'importance que je pense généralement la population, surtout la jeune génération, mais la population en général accorde à l'environnement, on est déçus du résultat de voir le cancre dans le test que les groupes environnementaux ont fait passer aux partis politiques. Là, on se souvient que la CAQ était le dernier de classe dans les résultats. Donc, on sait que leur plateforme électorale, leur programme, et plus généralement, l'idéologie là, qui est au cœur de la CAQ ne fait pas une très grande part à l'environnement. Ce n'est pas une grande préoccupation, mais je pense que je suis pas sûr qu'on va avoir une très longue lune de miel, mais j'ai quand même envie de m'accrocher à quelque chose. D'une part, je pense que François Legault, c'est un gars de gros bon sens, OK? Et le gros bon sens veut qu'on accorde de l'importance à l'environnement. Le gros bon sens, par exemple, quand il va voir les chiffres, là, il n'y a pas de business à faire avec le pétrole à Anticosti pour une chose qui l'intéresse. Là. Alors, il va bien se rendre compte que ça, lui qui a pourfendu l'État, qui serait un gaspilleur de fonds publics, là, on vient de gaspiller 92 millions Anticosti. Et je pense qu'il faut que ça cesse, ce genre de gaspillage-là. On sait que plus on va s'éloigner du pétrole, plus on va se rapprocher du bonheur commun. On est au Québec en période de surplus énergétique, d'une énergie propre, parmi les plus propres qu'on peut créer. Et je pense que Legault, Il va entendre le gros bon sens. Souvenons-nous, au deuxième débat, il a quand même admis, devant François Massé, qu'il avait des bonnes idées dans la plateforme de Québec solidaire, qui, elle, s'est retrouvée première de classe dans le test des groupes environnementaux. Donc, je pense qu'on peut quand même lire dans le résultat de l'élection qu'on vient d'élire quand même 10 députés à Québec solidaire dont le cœur de la plateforme électorale était la transition écologique ou la transition économique écologique et qu'un gouvernement digne de ce nom qui prétend qu'il va gouverner pour tout le monde ne peut pas contourner cette question-là qui malheureusement, effectivement, n'a pas été assez importante dans la campagne, mais il reste que je pense qu'il y a eu des gens qui ont pris la rue. Les médias ont finalement, je pense, corrigé le tir et en fin de campagne, on a quand même plus parlé d'environnement. Ça ne s'est pas concrétisé à l'urne, mais moi, je peux vous dire une chose, parce que pour l'avoir vécu personnellement, il y a un éveil citoyen extrêmement fort avec lequel le gouvernement ne pourra pas composer, et même si le lobby du pétrole ou le lobby de l'industrie lourde et polluante est puissant, moi, je peux vous dire que la société civile, les citoyens ont développé une solidarité extrêmement forte depuis des années et que ça va être très difficile. Par exemple, là, on a vu un tweet du président de l'Association des pétrolières et gazières le soir de l'élection, Michael Binion, féliciter François Legault. On sait qu'ils vont vouloir retenter une percée avec le gaz de schiste. Moi, je peux vous dire, là, je suis en lien avec les comités de citoyens, puis je peux vous dire que bonne chance s'ils veulent revenir, parce que l'acceptabilité sociale au Québec sur la fracturation hydraulique et le gaz de schiste, il n'y en a pas. Et ça, Legault a quand même été clair là-dessus. S'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de ça. Alors, moi, j'ai envie de croire qu'on est capable de travailler ensemble et de faire en sorte qu'on puisse relever le plus grand défi de notre époque, qui est la lutte au réchauffement climatique et la transition de nos économies vers un mode de vie plus écologique.
Je vais me tourner vers mes autres invités, parce que le collectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait demandé aux partis politiques en campagne d'intégrer 23 propositions considéré essentiel en matière d'environnement, était formé entre autres d'Équiterre, de la Fondation David Suzuki, de Greenpeace, de Nature Québec. Il y avait Trajectoire Québec, Vélo Québec, Vivre en ville, bon, plusieurs. Justement, là-dessus, Sidney Ribault, j'aimerais vous entendre, parce que sur la question, la première étant interdire sur le territoire québécois la construction ou l'agrandissement de toute infrastructure visant à augmenter l'exploration, la production, le transport, la distribution ou la consommation d'énergie fossile comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. La CAQ a dit non. Donc, ils sont contre l'interdiction. Ça veut dire que c'était contre une interdiction, c'est que c'est comme en faveur. Tu n'es pas neutre, forcément.
Oui, en fait, il y a des nuances. Quand on va lire leur réponse dans le détail,
c'est ça, oui.
Ce qu'on voit, c'est qu'ils disent... premièrement, ils disent on est d'accord qu'il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
Et on va faire de l'exportation d'électricité une priorité.
Bon, voilà. Et ils disent aussi on est contre la fracturation hydraulique dans les milieux hydriques. Donc, ils vont pas aussi loin que ce qu'on voulait, mais bon, il y a un début de réponse là. Je pense que ça va dans le sens de ce que Dominique disait tantôt. Est-ce qu'on peut, dans le fond, le défi que nous aurons comme groupe environnementaux dans les prochaines années, c'est de leur faire comprendre quelle est la science derrière ça. Dans certains cas, dans plusieurs cas, quelle est l'économie derrière ça, parce que plusieurs de ces projets-là ne font pas beaucoup de sens d'un point de vue économique non plus.
Oui. Quand on lit leur réponse, là, j'ai le document devant moi, j'ai lu plusieurs fois, parce qu'on a fait une émission, justement, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, il y a une couple de semaines là-dessus, où on en parlait d'ailleurs. C'est intéressant comme démarche que vous avez faite, là, de poser toutes ces questions-là qui sont essentielles. Quelqu'un qui est un citoyen qui veut être un peu vert devrait aller lire les réponses, entre autres, là, aujourd'hui, en plus, la CAQ est au gouvernement, donc c'est encore plus intéressant de voir à quel point ils sont flous. On dirait qu'ils sont comme pas au courant, finalement, Patrick. J'ai l'impression qu'ils maîtrisent pas du tout les principaux dossiers environnementaux.
J'ai la même impression. Il y a une réalité, je crois, très électoraliste de la part de la CAQ qui ont choisi de ne pas mettre l'environnement dans leur plateforme parce que probablement que c'était pas le public cible qui allait aller chercher pour obtenir leur majorité. Est-ce que ça veut dire que la CAQ est anti-environnement? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce sujet, qu'il y a une ouverture de la part de M. Legault. Il y a déjà un engagement à respecter la cible de réduction de gaz à effet de serre du Québec pour 2030, qui va quand même exiger un virage majeur. Il ne sait pas comment il va y arriver, et je pense que cette ouverture-là, mais c'est à nous, c'est aux scientifiques, c'est aux économistes, à contribuer à cette réflexion-là, à montrer justement qu'on a tout à gagner au Québec à développer, par exemple, les transports collectifs, à améliorer l'électrification des transports. Et ce sont des questions de santé, de productivité de société, de qualité de vie. Et je pense que le gros bon sens, comme l'a dit Dominique, va l'emporter ici.
Oui, mais justement, le gros bon sens, sincèrement, là, ça fait des années que je le dis parce que j'en reviens juste pas encore qu'on donne des subventions à des pétrolières qui pourraient toutes nous acheter en gang puis qu'on aurait... Tu sais, je veux dire, on donne des subventions très généreuses à des gens qui n'en ont pas besoin.
Ben, non? Là-dessus, il faut comprendre qu'au niveau fédéral, en effet, l'industrie reçoit énormément de subventions. C'est plus d'1 milliard par année. Au niveau provincial, Équiterre a fait cette analyse-là, c'est près de 300 millions par année. Et c'est beaucoup à la consommation. Donc, sur l'achat de produits pétroliers, entre autres, de la part de transporteurs, par exemple, qu'on retrouve ces subventions-là. Donc, ça ne fait aucun sens, lorsqu'on met un prix sur le carbone au Québec avec la bourse de carbone, de par la bande financer le pétrole. Mais c'est beaucoup à la consommation. Il faut, en effet, se départir rapidement de ces subventions-là.
Et là, cette question-là, vous posez la question, éliminer les subventions aux combustibles fossiles, la CAQ est la seule qui a répondu non. PQ, Québec solidaire ont dit clairement oui. Bon, le Parti libéral n'avait pas répondu, mais la CAQ a dit non. C'est assez clair, non?
Mais moi, là où j'ai confiance...
Jean-Sébastien Trudel.
Derrière tout ça, c'est que finalement, un peu comme l'a dit Patrick, il y a encore beaucoup de sensibilisation, d'éducation à faire. Puis si on regarde dans le passé, je prends par exemple M. Dion, quand il est devenu ministre de l'Environnement, Stéphane Dion, il était à peu près au même point de connaissance où en est actuellement peut-être François Legault. Là, je ne connais pas exactement toutes ses connaissances en environnement. Mais il a fait une démarche pour comprendre, pour essayer de voir qu'est-ce qu'était cette science-là derrière. Et je me souviens très bien d'un moment où il est venu, à ce moment-là, je travaillais à l'université, à la Polytechnique. Et quand il est ressorti de la rencontre, il y a comme quelque chose qui avait allumé. Et ça, c'est devenu un moteur pour lui. Il a vraiment adopté le discours du mariage de l'économie et de l'environnement. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bien derrière. On peut dire la même chose de Thomas Mulcair. Il y a beaucoup de gens qui entrent en politique et qui ne sont pas au courant de tout ce qui est possible de faire et de la réalité des solutions qui existent également. Mais à partir du moment où ils comprennent qu'on n'a pas à opposer économie et environnement, que ça, au contraire, ça doit aller ensemble si on veut réellement... je veux dire, il y a un mur là, qui s'en vient. Hein? si on veut réussir à éviter ce mur-là, on va devoir changer nos pratiques, nos façons de faire. Et ce n'est pas en gardant, disons, une opposition entre, disons, l'environnement, c'est à gauche, puis nous, on est à droite,
ouais,
donc on
n'en
prend
mémoire,
pas, ça
ne marchera
pas.
Mais de mémoire, Stéphane Dion a d'ailleurs fait carrément presque une campagne là-dessus, tout avec un plan vert.
Sur la taxe sur le carbone.
Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, si on y posait la question, feriez-vous les choses
Est-ce
autrement?
Est-ce que c'était une erreur?
Peut-être qu'il dirait, hey, si j'avais su, j'aurais fait d'autres choses.
Peut-être, mais... En même temps, c'était quoi, il y a presque 10 ans maintenant?
Est-ce que les mentalités ont évolué?
Je pense.
Parce que ce matin, on essaye de voir, est-ce qu'on est aussi vert qu'on veut bien le dire? Je veux dire, on avait... Tu sais, moi, j'ai déploré, par exemple, qu'il n'y avait pas... Je ne sais pas où était le Parti vert. On ne l'a pas entendu. Je veux dire, qui est le chef du Parti vert au Québec? Êtes-vous capable de me le nommer? Je veux dire, si on faisait un sondage à la Guinantelle, là, je pense qu'il y a bien des gens qui diraient... C'est qui? Dominique Champagne, le connaît-il?
Alex Tirel, mais...
Mais c'est dommage. Oui, on connaît son nom, mais je veux dire,
2%, ils ont triplé leur vote par rapport... Mais c'est sûr que le Parti vert au Québec, je pense, à cause de la présence de Québec solidaire, n'a pas la force qu'ils ont ailleurs. En même temps, on est dans un système électoral qui défavorise ce type de parti-là. Donc, c'est sûr que c'est pas facile pour ces partis-là qui sont sur un seul enjeu.
Je veux dire, à l'époque, le Parti vert, mettons, il y a 10 ans, avait plus de votes que Québec solidaire. Il suffit que tu mets, regardez l'ascension de Québec solidaire. Si on avait mis dans le Parti vert le même genre de volonté à se faire élire. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème politique de leur côté. Là. On leur laisse leurs problèmes, mais c'est dommage quand même qu'on n'entende pas au Québec une voix verte à part les vôtres. Là.
Mais en même temps, Québec solidaire, dans cette élection, a pris la place normalement que le Parti vert prend. Ils sont arrivés en partant en disant l'environnement sera central dans notre vision, dans notre proposition de projet de société. Les changements climatiques, c'est la priorité. Et en ce sens, ils ont évacué d'une certaine manière ce discours du Parti vert qui ne pouvait pas compétitionner avec un Québec solidaire. Et il y a aussi des enjeux de système électoral. En effet, avoir un système à la britannique, c'est comme avoir encore la face de la reine sur nos pièces. Il faut réaliser que ça ne fonctionne pas. M. Legault s'est engagé à mettre une dimension de proportionnel dans les les élections. Et je pense que ça va aider justement l'émergence d'idées, entre autres au niveau environnemental, qui ne peuvent pas percer actuellement dans le système actuel.
Ouais. Je pense que l'autre élément qu'il faut souligner par rapport à la CAQ, c'est qu'on est, au Québec, on a des coalitions qui sont gauche-droite. La CAQ, il y a toutes sortes de monde dans la CAQ. Nous, on a rencontré 25 candidats de la CAQ pendant les élections. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'environnementalistes dans la CAQ. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent d'environnement. Mais ça ne se retrouvait pas dans la plateforme ou ça ne se retrouvait pas beaucoup dans la plateforme, effectivement, de la CAQ. Alors, je pense que ces gens-là vont devoir, la voix de ces gens-là devront être entendue. Puis, encore une fois, on est dans un système électoral où les gens se présentent dans des partis de coalition, finalement, avec toutes sortes d'enjeux. Et je pense que la CAQ va réaliser rapidement qu'au Québec, il y a beaucoup de consensus.
Mais on s'entend qu'il n'y a pas une figure environnementale qui ressort. Là. C'est ce matin, dans le journal, on voit là, les indispensables. Ceux qui... Là, on commence à faire un peu des espèces d'hypothèses à savoir qui se formera le prochain Conseil des ministres. Oui. Les ministres de l'Environnement, là, d'après vous, ça va être qui? Dominique Champagne, en as-tu trouvé un? Là?
Ça devrait être moi, ministre de l'Environnement.
Sincèrement, je voterais pour toi. Sincèrement, à mon vote.
J'ai envie de rajouter quand même qu'il s'est produit un petit miracle le printemps dernier dont on n'a pas beaucoup fait état dans les médias. On a vu pendant deux jours au Palais des Congrès à Montréal, assis à une même table, une situation qu'on n'aurait pas cru imaginable il y a quelques années. Greenpeace avec le Fonds de solidarité, la Caisse de dépôt et de placement avec la Fondation David Suzuki, Équiterre était là. Il y avait des gros joueurs, des gros investisseurs, Fonds d'action, les Caisses populaires des Jardins, et il se dégageait pendant deux jours une série de consensus, des gens prêts à investir, des gens qui savent que les jobs à 25$ puis à 30$, il y en a beaucoup qui se trouvent dans ces niches-là d'économie écologique, de transition énergétique. C'était le sommet pour une transition énergétique juste. Et chaque gens qui venaient témoigner, des scientifiques, des syndiqués, mais aussi des investisseurs, des gros joueurs, pas des gens qu'on pourrait qualifier de la gauche ou de l'extrême-gauche, là, qui venaient dire que tout le monde est prêt à ce que le Québec, qui est bien positionné, bouge fortement dans cette direction-là. Et ce que ça prend, c'est un leadership politique fort, qui fait défaut présentement. Alors, la CAQ a deux choix. Soit ils vont assumer ce leadership politique-là, soit la société civile va se regrouper, parce que la nature a horreur du vide et on a une priorité criante, urgente. La démission fracassante de Nicolas Hulot au mois d'août en faisait état. On peut pas. La question est trop grave pour être laissée seulement dans les mains des politiciens et la société civile, les citoyens ont leur job à faire. Et moi, je suis extrêmement confiant qu'il y a quelque chose qui va se passer durant le mandat de la CAQ avec ou sans le leadership du gouvernement.
Mm-hmm. On va s'arrêter. Merci, Dominique. Tu restes un petit peu avec nous. On va aller à la pause. Je vais demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous avez voté vert, c'est-à-dire en pensant à l'environnement? Est-ce que vous estimez que, dans le fond, il y a des limites, là? On peut être environnemental sur certains coins, recycler, mais il y a un moment donné, votre environnementalisme, votre côté vert s'arrête. Vous me direz jusqu'à quel point, dans le fond, vous voulez un Québec vert, parce que des choses... Souvent, on a parlé un peu avec mes invités, l'économie versus l'environnement. Est-ce que vous pensez que les deux peuvent tout à fait être conciliés et conciliables? 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. Est-ce que on va poser la question à nos auditeurs? Jusqu'à quel point voulez-vous un Québec vert? Jean-Marc, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très, très bien. J'allais vous demander, est-ce que vous avez voté en fonction de cette composante environnement?
Oui, jusqu'à un certain degré, en fait. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'au Québec, on est vraiment vert? Je ne crois pas. On a un taux de participation qui a avoisiné les 66 %
ouais,
à peu près?
Oui, oui.
67 % sur une capacité de voteurs qui va à peu près à 9 millions de personnes. Sur ces 9 personnes-là, on enlève 30 quelques pourcents, on tombe à 5 millions. Sur les 5 millions, combien de personnes ont voté Québec solidaire? On parle d'un pourcentage qui avoisine les...
Ouais. On parle plus de 6,5, 6,8 personnes, millions de personnes qui pouvaient voter. Là. Mais peu importe, il y a très peu de gens finalement au prorata, là.
Qui ont fini par voter vert. Là. Ouais. Et sur le 37 % qui ont voté la coalition Avenir Québec, là, juste sur ce 37 %-là, le pourcentage de personnes qui connaissaient vraiment ce que le parti pouvait apporter globalement au Québec. Et même là, était peut-être de 50 %. Là. Le monde ne s'intéresse pas à la politique. Le monde s'intéresse au changement climatique, bien sûr, mais allez voter. Allez voter.
Merci.
Le problème se résume à ça, en fait. Là.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Marc, votre opinion là-dessus, là, sur le jusqu'à quel point est-ce que vous pensez qu'on veut véritablement un Québec vert au Québec?
Moi, je crois je suis content de ton sujet. C'est un très bon sujet. J'adore parler d'environnement. Là, je vais te conter une petite anecdote. Moi, j'ai fait du porte-à-porte pour la CAQ dimanche.
Oui.
Puis, je suis arrivé chez la madame, j'ai cogné à la porte, bam, bam, bam. Un genre de réception un peu froide, puis tout ça. Puis là, je dis, madame, c'est quoi votre principal enjeu dans cette élection-là? Elle dit, ben, monsieur, moi, c'est l'environnement.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dit, ben, à la CAQ, on a des mesures en environnement. Là, j'ai commencé à nommer des mesures, puis parlé de la. Il y avait trois autos dans l'André. Il y avait deux personnes dans la maison. Là, ce que j'ai dit, que quand la CAQ est prête à donner des crédits d'impôt pour le covoiturage, puis faire plus de stationnement incitatif le long de la 20, puis le long de la 40, dans les sorties, ces choses-là, bien là, elle m'a dit, oui, c'est vrai, on n'est pas vraiment un bon exemple, on a trois... Elle s'est aperçue qu'elle avait trois chars dans sa cour.
Ouais,
comprenez-vous?
Oui, tout à fait.
C'est ça, l'environnement, ça commence par qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'environnement. Attends pas après les politiciens.
Ouais.
Les politiciens, eux autres, vont te donner des mesures pour le faire. Puis moi, ben, c'est sûr que...
Non, mais ils ont aussi marqué votre exemple est tout à fait probant. C'est drôle, j'en parlais avec mes invités pendant la pause. Je leur expliquais que j'avais commencé à composter il y a quelques semaines. Puis c'était fou le nombre de personnes qui me disaient « T'es donc bien folle de partir ça, hein, c'est bien trop de troubles. » Mais c'est des exemples, effectivement, qui montrent à quel point, dans la vision générale, on est très vert au Québec. On se dit « Ah, c'est important. » Mais dans notre petit quotidien, on ne veut pas trop changer nos habitudes. Il ne faut pas que ça fasse trop mal. Merci, Marc. Dominique Champagne. Dominique, fais-tu ton effort environnemental?
Bien, je pense que je le fais comme tout le monde. Je ne veux pas me poser en saint, mais c'est sûr que je pense que depuis une génération, il y a un changement de comportement évident. J'ai envie de dire radical. Moi, quand j'étais jeune, là, mes parents fumaient dans le char, les fenêtres fermées.
Ouais.
C'était un comportement acceptable. Et en l'espace d'une génération, on a compris, malgré le lobby des cigarettes qui nous disait qu'il n'y avait pas de lien entre le cancer de poumon et la cigarette, il y a des changements à l'égard de la cigarette qui sont majeurs dans notre société, même s'il y a encore un paquet de monde qui fume, puis la nature humaine étant ce qu'elle est. Il reste que ça nous prend des lois. S'il n'y avait pas de limite de vitesse sur les autoroutes, il y aurait toutes sortes de comportements qui se passeraient.
Il faut de la vision.
Ça prend des guides, ça prend de la vision. Je pense que ce qui est décourageant, c'est que quand tu vois, il y a une série de petits gestes individuels qu'on peut poser, mais on sait que les grands gestes doivent venir aussi de l'industrie lourde, de la façon dont on fait nos routes, ou de la façon dont on fait le transport. Des investissements comme le troisième lien à Québec, ça peut faire rêver bien des gens, mais on sait scientifiquement, c'est prouvé que ça va juste créer plus de voitures, plus de pollution et plus de congestion. Donc, ça va pas régler le problème. Alors que il y en a des solutions de transport collectif ou de transport qui est beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Et là, une affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que la nature commence à prendre sa revanche. On a, depuis un siècle, pelleté beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Et là, alors ça, nécessairement, là, le danger va créer une réaction qui, pour l'instant, par moment, est trop difficile d'avoir parce que ça demeure, pour beaucoup de gens, une certaine forme d'abstraction. Quand quotidiennement tu plonges en littérature, il y a de quoi s'angoisser parce que les chiffres sont tellement éloquents, c'est tellement évident qu'il faut sortir du pétrole, mais en même temps, on est une société droguée, intoxiquée au pétrole. Alors, le sevrage, comme pour n'importe quel junkie, c'est pas quelque chose de facile, mais moi, j'ai envie qu'on se dise que c'est possible. Il faut pas être fataliste, il faut continuer à mettre de la pression, il faut à la fois s'indigner puis à la fois s'encourager.
Merci beaucoup, Dominique.
Là-dessus, il faut dire il y a des solutions qui existent. Il faut arrêter de toujours mettre la culpabilité sur le dos des individus parce qu'il y a des choix qu'on peut faire individuellement, puis il y a des choix qu'on ne peut pas faire individuellement. On ne peut pas choisir individuellement de construire une ligne de métro, de faire une voie réservée sur l'autoroute. Et l'exemple de la personne qui a appelé tantôt, c'est un peu ça. C'est pour que tu puisses délaisser deux de tes trois voitures, par exemple, Encore faut-il qu'il y ait un service de transport en commun adéquat qui te permet d'aller au travail à tous les jours.
Et puis, on le vit durement cette semaine. On a des exemples.
Effectivement. Ouais. Et présentement, on ne fait pas de promotion pour que les gens prennent le transport en commun parce que les lignes sont de métro sont pleines à capacité si vous prenez le métro à l'heure de pointe. Donc, la bonne nouvelle dans les dernières élections par rapport à ça, c'est que 40 % de nos gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports, c'est que tous les partis, incluant la CAQ, avaient plusieurs projets. Ils ont tous proposé plein de projets de transport en commun. La Ville de Montréal a des projets de transport en commun. La Ville de Québec a des projets de transport en commun. En fait, toutes les villes au Québec, présentement, ont des projets en ballant. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra certainement travailler avec ce gouvernement-là. On n'est pas d'accord avec tous les projets individuellement, mais l'idée, c'est de dire, oui, il faut investir dans le transport en commun pour donner justement un choix aux gens.
Merci, Sidney Ribault. Dominique Champagne, je te laisse aller. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir parlé ce matin.
Ça me fait plaisir.
Je rappelle aux gens ton documentaire Anticosti, la chasse au pétrole extrême. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à voir. On voit Dominique aller justement avec son fils aussi, hein, la nouvelle génération de ces jeunes environnementaux. Surtout que je rappelle que Dominique Champagne avait un père qui a déjà été, je pense qu'il était sous-ministre, ton père à l'époque, n'est-ce pas, Dominique?
Oui, il était sous-ministre au tourisme à l'époque où le gouvernement du Québec avait racheté l'île d'Anticosti.
Voilà. Donc, il y a un attachement particulier de ta part. Merci beaucoup, Dominique Champagne. On va s'arrêter ici. Jusqu'à quel point voulez-vous un Québec vert ou jusqu'à quel point pensez-vous que nous, citoyens du Québec, on veut vraiment faire un effort environnemental? Il y a l'action, effectivement, mes invités l'ont très bien expliqué, l'action personnelle, individuelle, ça fait une différence, c'est sûr. Et il y a le message qu'on envoie. Puis par vos actions individuelles, vous envoyez un message aussi à votre gouvernement. Et il y a la vision gouvernementale. Mais cette vision-là, elle part de qui? Elle part de nous. C'est nous, il ne faut jamais l'oublier, qui devons dire à notre gouvernement, à nos gouvernements, ce qu'on veut. Des fois, ils n'écoutent pas. 514-790-9850. 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. On apprenait récemment que la Coalition Avenir Québec était le parti qui semblait le moins préoccupé par l'environnement. C'est ce que suggéraient les groupes environnementaux au Québec. Il y a eu d'ailleurs tout un groupe qui s'est réuni pour poser des priorités environnementales aux quatre partis pendant la campagne. Et c'est vrai que quand on lit ce document, c'est fort intéressant, je vous le recommande d'ailleurs, mais on voit que la CAQ avait pas ou peu de réponses par rapport à ces 23 priorités environnementales. Réal, est-ce que vous pensez qu'au Québec, on est conséquent, c'est-à-dire que on dit que l'environnement, c'est important, mais est-ce qu'on choisit l'environnement véritablement dans nos actions personnelles, individuelles, quotidiennes?
En fait, moi, je suis pas contre que les gens... s'investissent dans la réduction de la pollution, mais je crois qu'il y a un délire actuellement là à propos de l'environnement et de la production des GES. Le Canada entier produit moins de 2% du GES mondial. Pendant ce temps, en Chine, en Inde, ils construisent cette année, on construit 300 centrales au charbon. Sur les océans, il y a 90 000 porte-containers qui chacun produisent l'équivalent de 5 millions d'autos parce qu'ils circulent 24 heures sur 24. Sur les océans, on veut culpabiliser.
Vous dites délire actuel parce que finalement, même si nous, on fait notre petit effort, tant que les Chinois, les Indiens, les Américains ou d'autres
ne
font
Canada,
pas...
Oui, le Canada entier pourrait disparaître de la carte, puis ça ne changera absolument rien la pollution mondiale. Ça fait qu'on se culpabilise trop. Je suis pas con qu'on le fasse, mais il ne faut pas exagérer non plus l'impact qu'on a sur l'ensemble.
D'accord. Merci, Réal. Je vais faire un tour de table peut-être là-dessus avant de parler à Pierre, Jean-Sébastien Trudel. Tu as écrit « Au secours, la planète se meurt et mon boss s'en fout ». Est-ce que c'est vrai qu'il y a un délire? C'est-à-dire que on a beau faire un petit effort ici, tant que les autres le feront. C'est vrai que c'est le même air, c'est le même mot. Tu sais, c'est bon.
Non, puis c'est sûr que
beaucoup de gens pensent comme
l'enjeu est global. Et ça, il faut le reconnaître. En même temps, je pense que les Canadiens, on a un pouvoir énorme, si ce n'est que d'influence on pourrait même être un laboratoire mondial pour développer des nouvelles technologies, pour développer une nouvelle façon d'aborder l'économie et l'environnement. Donc, de là à dire qu'on n'a pas de pouvoir ou qu'on n'a pas de rôle à jouer, c'est faux. Là. Je pense que sans dire que c'est
En fait, ce que dit Réal, et je vous le dis, beaucoup de gens, vous devez le savoir, Sidney Ribault d'Équiterre, que beaucoup de gens pensent ça aussi. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, je veux bien, mais je ne veux pas qu'on m'en mette trop sur le dos puis qu'on me pointe du doigt parce que je pense qu'on fait plus d'efforts ici qu'ailleurs.
Ben oui, mais en fait, c'est faux.
Tous ces
en fait,
chiffres-là, on n'a pas pu les vérifier. Là. Vous ne sembliez pas d'accord avec ce qu'il y
a. On parle de la Chine. La Chine n'est pas en train de construire des centrales au charbon. Ils sont en train d'en fermer des centrales au charbon. Il y a une couple d'années, ils en ont fermé 100, ce qui est énorme. Là. Alors, ils sont en train d'électrifier leur transport. Il y a des villes, la ville de Shenzhen, c'est un exemple incroyable, qui est une ville qui a un système de transport en commun qui est à peu près 5 fois plus important que la ville de Montréal. Ils ont décidé en 1 an d'électrifier tous leurs autobus. Pas des hybrides, là, des 100% électriques. Alors, ils ont fait ça en l'espace d'une année, 17 000
autobus
électriques.
Parce qu'ils se sont rendus compte que si ça continuait, ils pourraient plus respirer.
Écoutez, la Chine est en train d'imposer aux manufacturiers de toute la planète d'électrifier les véhicules qu'ils vendent parce qu'ils ont dit essentiellement aux manufacturiers, vous vendez des véhicules électriques en Chine ou ben non, vous n'en vendez pas du tout. Alors, toutes les entreprises qui hésitaient, qui prenaient leur temps, ça va coûter cher avant de faire des véhicules électriques, là, ils sont en train de développer des véhicules électriques pour le marché chinois et donc, ils en auront pour notre marché. Alors, est-ce qu'on en fait plus qu'ailleurs? Le Québec, quand on se compare à l'Amérique du Nord, oui, on n'est pas pire, on est bon, mais quand on se compare au reste de la planète, on a beaucoup, beaucoup de croûte à manger.
Puis il y a là le risque, parce que si on fait rien ou si on fait, ben, c'est pas nous de toute façon, puis qu'on continue à rester dans nos vieilles façons de faire, je veux dire, au 21e siècle, au 22e siècle, au 23e, on va être où? On va être où? Tu sais, je veux dire, ultimement, si on veut continuer à pouvoir...
Le 23e siècle, Jean-Sébastien, je veux pas dégonfler ta ballonne, ça touche moins le monde. Tu sais.
Ça, c'est vrai, mais je veux dire, ça se bâtit sur quelque chose. Ouais. Et on pourrait être un pays du tiers-monde si on reste dans nos vieilles façons de faire rendues
ouais,
là.
Ouais.
Mais disons-nous les
Patrick
vraies choses.
Patrick Bonin,
là,
oui, de
délire, là. C'est pas un délire ce qui s'est passé au Québec, par exemple, cet été. 8 périodes de canicule, une canicule meurtrière, près de 100 morts.
Les tornades?
Les tornades, c'est autre chose. Non, le lien avec les changements climatiques n'est pas là. Parlons des inondations, par exemple, qu'on a eues en 2017 au Québec, les feux de forêt records tout récemment. La réalité des changements climatiques et les impacts, ils sont déjà présents plus rapidement qu'on le croyait. Et quand vous avez le chef de l'ONU qui dit qu'on a 2 ans pour faire un virage radical, ce n'est pas Greenpeace, là. C'est l'ONU qui le dit et tous les pays le savent. Et tous les pays n'agissent pas suffisamment pour l'instant parce qu'on s'en va vers un réchauffement planétaire de 3 degrés Celsius, alors qu'on sait qu'au-delà de 2 degrés Celsius, on s'en va dans un emballement potentiel du climat. Ouais. Et c'est ça la réalité scientifique. Et au Québec, ben, si vous regardez, là, non, c'est pas vrai qu'on est vert. On consomme actuellement énormément. Et si tout le monde consommait comme les Québécois, ça prendrait 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Donc, on n'a pas à pointer du doigt la Chine parce que par capita, leurs émissions sont 2 à 3 fois moins grandes que nous. Donc, on a une responsabilité. On est un pays développé. Le Canada l'est. Partons pas un débat indépendantiste. Mais le Québec, tous les niveaux de gouvernement, qu'ils soient provinciaux, municipaux, fédéraux, ont un rôle à jouer parce que sans les gouvernements qui facilitent le travail des gens ou qui mettent des limites, on n'y arrivera pas.
On a Pierre avec nous. Bonjour, Pierre. Est-ce que vous pensez qu'on veut vraiment un Québec vert au Québec? Jusqu'à quel point pensez-vous qu'on est engagé là-dedans quand on dit qu'on est pro-environnement? Est-ce qu'on l'est vraiment?
Les gens veulent le devenir, mais ils ne savent pas comment. Donc, ils peuvent commencer par bâtir des maisons plus économiques en énergie, comme des maisons avec un coffrage isolant qui coûte exactement la moitié du prix en chauffage et climatisation. Ça équivaut à des milliers de dollars par année.
Ouais.
On peut rajouter de l'énergie solaire sur notre maison, un réservoir à eau chaude qui coûte à peu près 2-3 000 $ en énergie solaire pour une famille de 4. Donc, on coupe beaucoup de l'énergie à ce moment-là.
C'est drôle parce que...
moyens,
ouais, vous parlez de construction, puis j'ai Jean-Luc qui m'écrit justement, puis il dit qu'il est entrepreneur général. Ça va vous toucher, Pierre. Et en même temps, je suis promoteur immobilier, me dit Jean-Luc, depuis plus d'une dizaine d'années. Mes entreprises ont investi plus de 2 millions de dollars en recherche et développement pour mettre en place un produit immobilier résidentiel réellement vert, écrit-il, avec une structure en aluminium, des panneaux solaires, design harmonieux. Et sincèrement, il dit la limite de développement au Québec demeure dans la rigidité des lois municipales non adaptées, absence de volonté des consommateurs de payer un léger supplément pour faire la vraie différence en environnement. Il dit, il y a beaucoup plus de gens qui veulent juste flasher vert, mais qui, dans le fond, mettent pas l'argent pour faire véritablement ce changement. Il dit, c'est malheureux, mais c'est comme ça et c'est bien triste. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre?
Oui, mais flasher vert, c'est facile. Moi, ça fait 16 ans que j'ai bâti ma maison moi-même en coffrage isolant. J'ai trouvé 35 000 $ puis le coffrage isolant m'en a coûté 24. J'ai fait l'ouvrage moi-même. Là. Ça aurait été le double si ça aurait été un contracteur ou presque.
Ouais.
Mais j'ai quand même sauvé 35 000 $ en 16 ans.
Ouais. Ouais. Merci beaucoup.
C'est des sous ça, que les gens aimeraient avoir dans leur poche pour s'acheter une belle voiture neuve.
Ouais. Voiture électrique, bien sûr. Merci, Pierre. On s'arrête ici, on revient, puis on conclut avec mes invités. Et vos commentaires, tout de suite après. On a François avec nous. Est-ce que vous pensez qu'on est véritablement sérieux au Québec quand on parle d'environnement? Jusqu'à quel point est-ce qu'on veut un Québec vert, d'après vous?
Ben moi, je pense que la population veut un Québec vert. Puis elle attend juste que le gouvernement mette des choses en place pour lui faciliter la tâche. Exemple, moi, j'ai deux sujets, là. Premièrement, c'est on parle des autos électriques. Pourquoi les gens n'achètent pas? C'est tout simplement parce que l'autonomie n'est pas assez grande encore, puis ils ont peur de manquer d'électricité avant de revenir à la maison.
Ouais, ouais.
Alors, pourquoi le gouvernement ne demande pas à Hydro-Québec d'installer des bornes de recharge partout dans les endroits stratégiques au Québec?
Ouais.
Je serais capable de faire ça.
Ouais.
Je suis convaincu qu'on va doubler puis tripler la vente d'auto électrique au Québec si on fait ça.
En même temps, voyez-vous, sur la voiture électrique, il y en a peut-être qui ont peu d'autonomie, mais il y en a de plus en plus avec des autonomies intéressantes. En ce moment, cette semaine, j'essaye une Nissan Leaf. Elle a 260 kilomètres d'autonomie. Je veux dire, tu peux faire un bout, là. T'sais, oui, il faut que tu recharges éventuellement, puis c'est long. Si tu veux la charger chez toi, c'est à peu près 12 heures.
Premièrement,
mais je veux dire, on a beaucoup avancé, là.
Dans un immeuble à logement, il n'y a pas de bornes publiques.
Oui, oui, c'est sûr. Ouais.
L'autre chose, c'est au niveau du recyclage.
Mm-hmm.
J'écoutais, quelques semaines peut-être, là, on disait que le verre qu'on mettait dans nos bacs de recyclage,
ouais.
là, ça allait dans les dépotoirs de toute façon parce qu'il était contaminé. Je ne sais pas c'est quoi le contaminant.
Quand il est cassé en particulier, oui.
Oui. En tout cas, ben, bref, il y a du travail à faire au niveau du triage. On peut faire du triage à domicile, on peut s'organiser, mais... T'sais, les gens, ça les incite pas à faire du recyclage si ils savent que de toute façon, ça va aller dans le grand trou.
C'est sûr, tout à fait.
Okay? Donc, faut que le gouvernement mette les choses en place. Moi, ma vision des choses, là, c'est tout ce qui est produit, tout ce qu'on consomme devrait être recyclable et recyclé.
Mm.
Ça créait des nouveaux emplois dans plein d'industries. On pourrait même faire de l'argent avec les vidanges des autres.
Merci beaucoup. Y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui pointent du doigt le fait que les Québécois, on est peut-être verts, mais on va beaucoup en voyage dans le sud. Et là, Rémi me dit, vous devriez poser la question à vos auditeurs. Êtes-vous conscient de la pollution que vous générez chaque fois que vous prenez l'avion pour aller dans le sud, en Europe ou ailleurs? Il parle d'un chercheur qui a déjà calculé qu'un avion gros porteur qui part de l'Amérique du Nord vers l'Europe consomme autant de pétrole que 22 000 petites voitures en un an. Autant pour le retour, je ne sais pas si vous avez ces...
C'est l'équivalent de l'utilisation d'une voiture sur 18 000 km pendant une année d'aller...
Pas 22 000 quand?
Pour une personne, pour l'ensemble de
l'avion. Finalement, quand tu es 300 dans l'avion,
ça fait 300 voitures.
Oui, c'est ça. Oui, non, pas 22 000 quand même.
Non. Non, mais il y a un impact. C'est un enjeu important. C'est un enjeu qui est présentement à l'extérieur des accords internationaux parce que le transport aérien, ça se passe au-dessus d'espaces internationaux. Donc, il n'y a aucun pays qui dit c'est pas mes émissions. Alors, il y a là un enjeu qui est très complexe.
Si on pose la question, mettons que je demande aux gens, là, bon, là, voulez-vous annuler votre voyage dans le sud pour être vert? Croyez-moi, ça serait une très bonne question. Je suis sûr que les lignes seraient pleines. Les gens diraient, bien là, un instant, là, Patrick.
Mais c'est un bon exemple, l'aviation, tout comme le transport maritime, d'un des lobbies puissants qui n'a jamais voulu, jusqu'à tout récemment, réduire ses émissions et s'attaquer à ce problème-là. C'est pas pour rien que dans l'accord de Paris sur le climat, il n'y a rien sur l'aviation parce qu'ils ont résisté de nombreuses années. Et là, ils commencent à peine à s'engager du bout des lèvres et avec des demi-mesures.
Payer aux consommateurs.
Il faut changer notre agir personnel. En effet, il faut se poser des questions sur comment on agit dans la vie en général parce qu'on surconsomme au Québec, clairement.
Ouais.
Mais aussi, il faut mettre des limites, il faut mettre des normes, il faut que l'industrie arrête. Et c'est une question de lobby. Là. Au Canada, pourquoi vous pensez qu'on en est acheté des pipelines de sable bitumineux? C'est parce qu'on a un lobby pétrolier extrêmement puissant. Pourquoi vous pensez qu'on n'a pas de mesures aussi drastiques que ça pour réduire notre consommation de pétrole? Parce qu'il y en a qui n'ont pas intérêt et qui ont beaucoup d'influence auprès du gouvernement, entre autres. Donc, il faut en être conscient. Et on a un lobby citoyen et on l'a vu tout récemment. Les Québécois, on s'est levé, on s'est mobilisé, mais là, il va falloir le faire, si le gouvernement ne se contente que de petits pas, ou s'il y a des visées de réduire les protections environnementales, comme on peut le supposer, mais on ne l'espère pas, évidemment.
Sidney Ribault, Équiterre, Greenpeace aussi, bon, tous vos groupes, là, est-ce que vous allez rencontrer bientôt le prochain... premier ministre du Québec ou le prochain ministre de l'Environnement? J'imagine qu'on a hâte de savoir qui c'est.
On a hâte de savoir qui c'est. On a hâte de savoir qui sont les autres ministres aussi, hein, parce qu'il n'y a pas juste le ministre de l'Environnement qui a un impact sur l'environnement, le ministre des Transports, le ministre des Ressources naturelles. Il y a beaucoup de gens au Conseil des ministres qui ont un impact.
C'est vrai.
On a rencontré plusieurs candidats et donc on espère que oui, on va les rencontrer aussi, le gouvernement, rapidement.
Merci à vous trois. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Trudel, Patrick Bonin, Sidney Ribault. On s'arrête ici. Le temps des nouvelles. Restez là, tout le monde.